La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par Impact Centre. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le milieu agricole et rural plus durable. Dans cet épisode, nous allons partir à la rencontre de l'association Solidarité Paysans Centre-Val de Loire qui accompagne les agriculteurs en difficulté. Je suis avec Christian, paysan et administrateur de l'association, co-trésorier également, Nathalie, citoyenne et bénévole de l'association dans le Loiret et administratrice de l'association, et Margot qui est salariée de l'association. Donc, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, pourquoi l'association Solidarité Paysans a-t-elle été créée?
Eh bien, de ce qu'on a pu me raconter, hein, Solidarité Paysan Nationale, c'est d'abord avant tout un réseau d'associations départementales et régionales. Et en fait, le mouvement est né dans les années 80, lorsque les effets négatifs de la modernisation agricole commençaient à se faire sentir. C'est-à-dire que les techniques de modernisation des années 60-70, hein, ont entraîné un recours à des investissements importants, donc des emprunts. Les remboursements étaient bien supportés jusque dans les années 80, mais ensuite il y a eu une conjugaison de facteurs, hein, qui font que les difficultés ont commencé entre la surproduction, la baisse des prix à la production, la mise aux normes environnementales, l'iniquité des dispositions de la PAC. Et tout cela a fragilisé les exploitations, qui faisait qu'au moindre incident sanitaire, climatique, économique, les exploitants n'arrivaient plus à rembourser leurs emprunts et dans une spirale d'endettement, c'est-à-dire emprunter pour rembourser ses emprunts. Donc c'est face à cette problématique que les organisations comme la Confédération paysanne, les Chrétiens du monde rural, le mouvement de défense des exploitants familiaux, le mouvement d'action rurale d'obédience protestante se sont préoccupés de la défense des agriculteurs. Hein, et en 1988, il y a eu un événement important puisqu'il y a eu l'accord de la reconnaissance de l'extension des procédures collectives à l'agriculture, c'est-à-dire que les exploitations agricoles, tout comme n'importe quelle entreprise, ont maintenant la possibilité de traiter leurs dettes de façon plus globale. Ce qui signifie que cela rassemble tous les créanciers, hein, et les privant d'un droit d'agir individuellement. Ça a ouvert des perspectives de défense pour les paysans endettés et c'est à ce moment-là que ça a encouragé le développement de l'association et Solidarité Paysan Nationale est née en 1992.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment se structure l'association en région Centre-Val de Loire?
C'est Margot, la salariée du coup, qui répond à cette question. Solidarité Paysans en Centre-Val de Loire, l'association officiellement a été créée en 2017. On fête donc nos 5 ans cette année. Faut savoir qu'avant 2017, il existait déjà des structures, des collectifs, on va dire, plus ou moins informels dans certains départements de la région Centre, notamment dans le Loiret ou dans l'Eure-et-Loire, le Cher, des structures qui s'appelaient SOS Paysans ou même Solidarité Paysans et qui regroupaient déjà des paysans qui étaient touchés par la détresse de leur père et qui essayaient de les accompagner. Mais officiellement, notre structure régionale s'est bien créée en 2017 et s'est rattachée du coup au réseau national qu'a présenté Nathalie. Aujourd'hui, on compte 2 salariés dans l'association et on intervient donc sur les 6 départements. On a aujourd'hui une 50aine de bénévoles qui réalisent du coup les accompagnements. Et depuis le début de l'association, donc depuis 2017, on a accompagné environ 120 familles, sachant que ce nombre est en constante augmentation. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2021, on a accompagné environ 30 nouvelles familles. Et là, pour 2022, on s'approche plutôt des 40, 45, voire 50. Donc voilà, de plus en plus d'appels et de plus en plus d'accompagnements.
D'accord, merci Margot. Donc les chiffres sont pas tellement encourageant pour le monde agricole. Quels sont les objectifs du coup de votre association ?
Notre association, en fait, elle propose à tous les paysans et les paysannes qui en font la demande un accompagnement personnalisé qui sera réalisé par un binôme, donc soit 2 bénévoles, soit un bénévole, un salarié. Parfois, c'est un trinôme aussi avec 2 bénévoles et un salarié. L'objectif de fond, c'est d'aider les agriculteurs qu'on accompagne à trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur apporte avec nos bénévoles un soutien humain, un soutien psychosocial aussi. C'est une grosse part du travail qui est réalisé, mais aussi une expertise technique, en fait, selon les besoins, une expertise qui peut être aussi économique ou juridique, selon la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est beaucoup d'aide aussi dans les démarches administratives, beaucoup de relationnels qu'il faut rétablir avec certaines organisations, certains créanciers, parfois avec la MSA également. Mais je laisserai les bénévoles peut-être donner plus de détails sur la façon dont sont réalisés ces accompagnements.
Avant de parler vraiment du concret des accompagnements, je voulais vous poser une question sur le type de difficultés que rencontrent les paysans que vous accompagnez. Du coup, ma question s'adresse plutôt à Christian et Nathalie.
Oui, alors je veux bien commencer. Les difficultés, elles sont évidemment très, très, très diverses, mais souvent quand même, la première difficulté, souvent, est liée à un problème de revenu insuffisant, une problématique d'une production qui traverse une crise et qui est peut-être des fois révélateur d'un système plus global qui pose des vraies questions sur l'avenir de l'exploitation. Mais on peut aussi avoir des problèmes, des conflits de voisinage ou des problèmes de relations familiales entre un père et un fils, par exemple, mais pas que, hein, c'est pas, ça reste des exemples. Et évidemment, souvent, ou des problèmes de santé qui peuvent être un élément révélateur d'une problématique plus globale. Donc, en fait, toutes ces difficultés, on peut les rencontrer dans différents systèmes. Le système dominant, il faut pas se mentir, est quand même lié à une logique économique qui enfonce le paysan un petit peu plus tous les jours, ou du moins qui lui enlève sa capacité de décisionnelle de son exploitation. Ces activités, quelles que soient les productions, peuvent produire des difficultés, et il n'est pas toujours le mettre à bord pour pouvoir prendre les décisions, et il se trouve embarqué dans un engrenage. Par contre, on peut aussi avoir des systèmes beaucoup plus résilients, mais qui, pour des raisons conjoncturelles, vont traverser une période difficile. Nous, notre action par rapport à ce que disait tout à l'heure Margot, c'est d'être là pour accompagner, de pouvoir discuter, rencontrer les agriculteurs et essayer de créer un dialogue et de leur permettre de reprendre un petit peu la possibilité du pouvoir décisionnel, et qui derrière peut être l'amorce d'un nouveau démarrage ou d'une reprise de confiance en soi, etc. Et là encore, nous, là, on peut cerner un tas de difficultés, et dans des types de production, dans des systèmes très divers.
Nathalie, est-ce que tu veux compléter?
Oui, éventuellement, par exemple, pour prendre peut-être un exemple plus en détail, des cas qu'on rencontre quand même assez souvent. On peut, par exemple, dans l'élevage laitier, hein, j'ai déjà accompagné des éleveurs qui, au départ, ont un système qui tourne convenablement, qui rapporte un revenu décent. Et puis, par exemple, il y a la mise aux normes environnementales, hein, qui est genre les faux salisiers, les bâtiments qu'il faut rénover. Ça veut dire faire un nouvel emprunt. À ce moment-là, va arriver la fin des quotas laitiers, avec une baisse drastique du prix du lait, au même moment où on a fait des emprunts importants. Et là commence un petit peu la spirale, puisqu'il y a vraiment une baisse des revenus. On commence à voir que on a du mal à rembourser ces emprunts. Et il y a souvent une tendance à refaire un investissement derrière pour essayer de trouver une solution. Par exemple, acheter un robot pour diminuer la charge salariale. Et puis, c'est parti sur un endettement qui est de plus en plus important, avec un revenu qui diminue de plus en plus. Et ce que je dirais, c'est que la difficulté peut-être première qu'on a tendance à voir, c'est que la personne a peu de temps pour réfléchir à ces situations, à ces événements externes, en fait, qui lui tombent un petit peu dessus, quoi, pour réagir et pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Est-ce que emprunter de nouveau, est-ce que c'est la seule solution, qu'est-ce qu'il faut changer? Donc, tout va très vite en général et ça explique entre autres cette spirale de surendettement.
Et du coup, comment est-ce que vous vous y prenez à Solidarité Paysan pour accompagner ces paysans en difficulté?
Alors, qu'est-ce que c'est accompagner? Je voudrais peut-être préciser dans un premier temps que la majorité des bénévoles sont des paysans, retraités ou en activité, et qu'une des spécificités de l'accompagnement de Solidarité Paysan, c'est d'être de pair à pair. Donc, ce n'est pas le cas de tous les bénévoles, comme moi-même, par exemple, qui suis une citoyenne, mais c'est la majorité. Savoir aussi qu'un accompagnement, ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est avant tout des rencontres qui se passent sur l'exploitation. Alors pour moi, comment je décrirais un accompagnement? Tout d'abord, on se déplace toujours à deux. Ça me paraît très important parce qu'on a chacun une perception différente de la situation et les échanges sont vraiment très riches. On arrive, dans la première rencontre, on arrive auprès de personnes qui ont déjà fait l'effort d'appeler Solidarité Paysan pour dire qu'ils étaient en difficulté, mais qui sont psychologiquement déjà très affaiblis par les descentes d'huissier, les lettres commandées, très soucieux. Et notre première rencontre va vraiment avoir pour but d'essayer de comprendre leur histoire, l'histoire de la famille, l'histoire de l'exploitation, l'histoire qui a fait qu'ils en sont arrivés à cette situation, d'essayer aussi de rompre leur isolement en leur proposant finalement de créer une équipe entre nous pour essayer de résoudre leurs problèmes, et puis aussi de bien comprendre la demande, hein, pour situer ce que nous allons pouvoir faire, Solidarité Paysan. Ensuite, on a donc toute une série de rencontres. Très rapidement, on va essayer aussi de s'informer sur leur accès aux droits sociaux. Déjà, est-ce qu'ils connaissent les droits auxquels ils ont accès? Est-ce qu'ils en ont fait la demande, comme en particulier par exemple le RSA, hein, puisque la question de l'alimentation est souvent la plus urgente à résoudre. Ça nous permettra en même temps de comprendre un petit peu l'univers dans lequel ils évoluent et en particulier avec quels autres acteurs sociaux, hein, ils sont en contact, par exemple les assistantes sociales de la MSA ou des acteurs d'autres organisations ou d'autres institutions ou des acteurs techniques, de façon à mieux situer notre position et notre complémentarité dans cet accompagnement. Et puis, une fois que tout ça est à peu près posé, on va essayer d'envisager des scénarios pour traiter les problèmes et en général pour traiter l'endettement. Alors, on est loin d'être tous compétents d'un point de vue comptabilité, ni d'un point de vue juridique aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes juridiques, des problèmes par rapport au bail rural, par rapport à un divorce, par rapport à une cession. Mais l'idée, c'est sur l'exploitation, c'est d'arriver à formuler ensemble les bonnes questions, des questions claires, chercher à problématiser et ensuite on va se répartir un petit peu les tâches pour que chacun aille chercher des informations par rapport à ces questionnements. Alors nous, les bénévoles, on va avoir la possibilité de poser nos questions et de discuter auprès des autres bénévoles, en particulier donc les bénévoles bien sûr du Loiret, de la région Centre, mais aussi de l'ensemble des bénévoles du National, puisque il existe un système d'échange d'informations qui nous permet de poser des questions très précises, hein, sur des cas très concrets. Comme il y a beaucoup de bénévoles qui ont une expérience de nombreuses années, hein, parfois de plus de 30 ans, très souvent, un d'eux a déjà rencontré cette situation et a donc des idées pour expérimenter des solutions. On va donc faire beaucoup appel à ce réseau. On fait aussi appel aux animateurs donc qui de Solidarité Paysan Centre. Et puis on fait également appel éventuellement à une juriste du réseau national avec laquelle on peut avoir des échanges vraiment plus techniques sur les questions juridiques. En fonction, ben, de tous ces éléments qu'on essaye donc de poser un peu sur la table. Il y aura un certain temps, les paysans et les paysannes vont faire des choix, prendre certaines premières décisions. Et là, on va pouvoir proposer la possibilité d'accompagner un processus de négociation avec des créanciers, avec la banque, avec la MSA, ou si la situation est le niveau d'endettement est très élevé, de monter un dossier de cessation de paiement et de faire une demande de procédure collective, une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Une fois que la procédure est engagée, en fait, on va accompagner les paysans au tribunal ou avec le mandataire, on va accompagner le processus en fait jusqu'au bout. Et puis, tout en parallèle de tous ces de toutes ces rencontres, on va toujours essayer de discuter un petit peu des changements de pratiques dans le sens pas obligatoirement de changement de technique agricole, mais plutôt de changement de pratique par rapport à la gestion de leur exploitation. Est-ce que les marges sont vraiment positives? Est-ce qu'il n'y a pas des questionnements à se faire sur certaines productions? Est-ce que les prix de vente sont supportables par rapport aux charges de structure? Et finalement, on essaye d'accompagner les paysans et paysannes de façon à ce qu'ils reprennent une certaine autonomie sur la gestion et la prise de décision dans leur exploitation. Cela peut aller jusqu'à un accompagnement à des changements de techniques agricoles, mais c'est pas obligatoirement pour nous ça le changement de pratique. Pour vraiment résumer, je dirais que on fait en sorte que la peur du postier s'arrête et que un projet d'avenir se construise petit à petit.
D'accord. Est-ce que Christian, tu veux compléter ?
Oui, je trouve que c'est très intéressant ce qu'a dit Nathalie et simplement bien resituer que ce qu'il faut arriver à faire dans un accompagnement, c'est vraiment de créer un climat de confiance. Et on précise toujours qu'on est là et qu'on est dans une certaine discrétion, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger la façon dont les choses sont là. Et ça, il faut vraiment créer un climat de confiance qui va nous permettre après de pouvoir dérouler tout ce qu'a expliqué Nathalie. C'est vraiment ça qui est important et on ne juge pas la problématique dans laquelle on se trouve avec la personne qui rencontre des difficultés. Et à partir de ce moment où moi je l'ai ressenti dans beaucoup d'accompagnements, quand ce climat de confiance, on arrive à bien le mettre en place, après c'est beaucoup plus facile d'essayer d'accompagner pour trouver des solutions avec tous les outils, tous les éléments qui peuvent intervenir. Ça, je trouve que c'est le côté assez, assez important de solidarité paysan.
Et vous, Christian et Nathalie, qu'est-ce qui vous a amené à être bénévole dans cette association et quelles ont été vos motivations en fait pour rejoindre Solidarité Paysan ? Peut-être Christian, je te laisse commencer.
Oui, je veux bien commencer. Moi, je dirais que j'ai une carrière évidemment de paysan. J'ai commencé dans un système qui était conventionnel et dans lequel on a fait des choix vers un productivisme à une époque où on nous a expliqué très rapidement qu'il fallait mettre des terres en jachère. Et on a rencontré des difficultés qu'on a réussi à surmonter et on a changé de système au cours de ma carrière. C'est-à-dire que je suis passé d'un système très productiviste à un système bio à une époque où il a fallu tout créer. Et quand on m'a proposé de participer, bon, je connaissais évidemment Solidarité Paysan par le fait que j'étais à la Confédération Paysanne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans une carrière, quelle que soit la longueur de la carrière, mais on s'aperçoit des phases qu'on rencontre et à des moments donnés, on a besoin de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de pouvoir essayer de se confronter à d'autres par rapport à ce qu'on pense être bien dans la façon dans le système dans lequel on est. Et quand on a des virages à opérer, on a besoin d'être soutenu. Et dans le cas des difficultés aujourd'hui des agriculteurs, il y a beaucoup de choses qui se télescopent et qui sont compliquées à gérer. Et ce rôle-là, il est important. Et moi, j'ai trouvé que jeune retraité, pouvoir, parce que j'ai plus de disponibilité, accompagner, être là, écouter et permettre de faire avancer des questions comme ça dans mon entourage et dans le métier que j'ai fait toute ma vie, ça m'a paru être, j'allais presque dire, une évidence. Et c'est, je pense, quelque chose d'important à faire. Voilà.
Ok. Nathalie?
Pour ma part, donc moi je suis pas issue d'une famille de paysans, mais par contre j'ai toujours travaillé aux côtés des paysans, mais plutôt à l'étranger. Et quand je suis revenue en France, et en particulier dans le Loiret, j'ai participé à une fête paysanne où il y avait deux bénévoles de Solidarité Paysan qui présentaient l'association. Et je me suis dit à ce moment-là, je crois que je vois ma place dans cette association. Et pourquoi? Parce que je continue à me dire ça, hein, parce que je crois qu'on est vraiment sur le terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, c'est-à-dire qu'on est un vrai maillon déjà pour rompre l'isolement. Et puis aussi, en même temps, on est témoin, on comprend mieux quelle est toute la chaîne d'événements qui entraîne les personnes, hein, dans ces surendettements, dans ces grandes difficultés. Et ça nous ouvre les yeux, hein, de ce qu'on pourrait, en tant qu'acteur, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour changer un peu justement peut-être quelque chose dans le système, quoi, hein. Et puis aussi parce que je me suis rendu compte qu'on travaillait vraiment en équipe. Et c'est vrai, on travaille vraiment en équipe, donc de bénévoles et d'animateurs. On peut vraiment compter les uns sur les autres, hein, c'est-à-dire que quand on a un grand doute ou dans les moments les plus aigus, hein, par exemple dans une phase où on pense qu'il peut y avoir une crise suicidaire, et ben là on est très très regroupés, on s'aide beaucoup et c'est très rassurant. Moi, j'aurais tendance à réagir trop vite et petit à petit j'apprends au contact des uns et des autres, hein, que au contraire, faut prendre le temps. Donc, on s'appelle, on échange, on est en confiance. Christian parlait de la confiance avec les agriculteurs, mais je crois qu'entre nous aussi, bénévoles et animateurs, on est en grande confiance. Et ça, c'est très important pour moi. Et puis l'autre aussi chose que j'apprécie énormément, c'est qu'on est en même temps dans un réseau national que vraiment j'admire beaucoup, qui a 30 ans d'expérience. Et avec lequel je ne cesse d'apprendre, de comprendre et d'une certaine façon de m'émanciper grâce à ce réseau.
Selon vous, après tous les accompagnements que vous avez faits, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur d'où proviennent les difficultés rencontrées par les paysans? Christian, je te laisse commencer.
Oui. Elles sont souvent multiples et variées, et puis. Un système et un modèle dans un coin, dans une région, dans une petite région, peut très bien marcher ou moins bien parce qu'il y a un tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais quand même, le modèle dominant actuel produit quand même beaucoup de, entre guillemets, beaucoup de faillites du système parce que. On a des gros soucis sur la problématique alimentaire et sur la qualité des produits qu'on va fournir aux citoyens. Et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui fonctionne plus bien et on est complètement déstabilisé, quels que soient les systèmes actuels. Et je crois que là, il y a vraiment beaucoup de difficultés autour de ces questions-là.
Oui, donc je renchérirai aussi comme le dit Christian. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des demandes sociétales et marchandes qui sont nouvelles. Et il me semble qu'être paysan, ça signifie être hyper compétent, à la fois techniquement pour la production, pour la commercialisation, la recherche de marché, mais aussi dans les procédures administratives qui sont de plus en plus complexes et qui sont très chronophages. Ça, on l'a vraiment noté dans nos accompagnements. Il y a des normes sanitaires et environnementales qui évoluent en permanence avec lesquelles il faut se mettre à jour. Et c'est un véritable travail en plus. C'est très difficile de trouver une information précise. Par exemple, dernièrement, les normes des bâtiments fromagerie ont évolué. Pour avoir des informations très précises, sur les détails de ces normes, eh ben c'est très inaccessible. Hein, ce qui fait que finalement, les paysans passent énormément de temps sur ces tâches et le métier a beaucoup changé. Et en plus, j'ai l'impression que par moment, les paysans que nous accompagnons, ils ont tendance à considérer que finalement, il y a des décisions qu'on a prises pour eux. Ils ont tendance beaucoup à se remettre à des tiers aussi pour passer ces difficultés de procédure administrative, de mise aux normes, etc. Et on a l'impression qu'ils subissent les décisions plus qu'ils les ont prises, quoi. Et donc ça, il me semble que c'est un point important sur lequel il faut absolument qu'on réfléchisse plus tous ensemble, quoi. Comment redonner toute l'autonomie de décision que les paysans ont toujours eue grâce à l'expérience accumulée, hein, et grâce justement à cette expérience qui faisait qu'ils avaient un savoir-faire dans la gestion des risques face à toutes les incertitudes qui subsistent, hein, dans leur métier avec les aléas climatiques, avec les marchés, avec la production du vivant, parce que les plantes et les animaux, ça se comporte pas toujours de la même façon. J'ai l'impression que c'est vraiment vers cette autonomie, cette reprise de la gestion de leur ferme, qu'il faut essayer de s'orienter de plus en plus, quoi. Et je crois que par rapport à ça, nous, on insiste beaucoup, mais c'est la mise en réseau. Christian, je pense, l'a bien dit et l'a bien rappelé. Mais la mise en réseau dans des réseaux, pas obligatoirement des réseaux que techniques, mais des réseaux où on va réfléchir. On va réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire dans cette problématique, est-ce qu'il faut diversifier, qu'est-ce que font les autres, comment on peut échanger. Il y a des associations qui s'occupent de ça aussi, et il me semble que c'est ça le plus important.
Est-ce que les collectivités, les citoyens ou même les paysans peuvent prendre part à l'association, et comment, s'il y a des auditeurs qui écoutent et qui souhaitent rejoindre Solidarité Paysan, est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Alors, je veux bien répondre à Margot en tant que salariée sur cet aspect-là. Évidemment que c'est une association qui est ouverte à tous les citoyens. Vous avez pu voir là, les deux profils de bénévoles qu'on a qui sont très différents. On fait une grande partie de notre, voire l'essentiel de nos accompagnements grâce à ces bénévoles. Donc, on en a foncièrement besoin. Il faut savoir que si ça vous intéresse, effectivement, les actions qu'on puisse mener, vous pouvez déjà dans un premier temps aller voir notre site internet national et puis éventuellement nous contacter, nous aussi en tant que structure régionale, pour prendre contact avec nous, voir un peu comment on fonctionne, ce qu'on peut vous proposer comme rencontre, etc. Il faut simplement avoir en tête, mais je pense que les auditeurs l'auront compris avec les témoignages de Nathalie et de Christian, c'est pas un bénévolat comme les autres, dans le sens où c'est un bénévolat qui comporte une grosse dimension sociale. Il faut l'avoir en tête. Il y a des moments qui sont plus simples que d'autres. Il y a aussi, je pense que c'est important de le dire, il y a des moments aussi qui sont très agréables et très enrichissants humainement dans ce qu'on propose. C'est très fort. Les gens qui veulent faire du bénévolat dans notre association, c'est une des conditions qu'on pose, nous, et qui intéresse souvent les personnes, c'est qu'on les forme, en fait. On leur propose différents types de formation, que ce soit d'une manière générale sur l'écoute ou ce qu'on appelle l'écoute active, mais aussi sur des points plus précis comme les procédures juridiques ou encore la comptabilité agricole. On organise aussi des sessions de relecture de pratiques pour pouvoir débriefer un peu des situations compliquées qu'on rencontre. Et puis, il y a d'autres formes encore de bénévolat qui est possible, hein, en dehors des accompagnements. Nathalie racontait tout à l'heure qu'elle avait rencontré des bénévoles sur une fête paysanne. Typiquement, les bénévoles peuvent aussi jouer ce rôle de nous représenter lors de certains événements et de faire parler de nous. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut proposer aux citoyens qui s'intéressent à nous, et plus globalement aussi de faire parler de nous s'ils connaissent des agriculteurs qui sont en difficulté, de leur parler de l'association, qui peuvent nous appeler, qu'on est là pour ça.
Et est-ce que les collectivités peuvent vous soutenir ?
On travaille effectivement avec beaucoup de collectivités, c'est même nos principaux financeurs, hein, je pense à la région Centre notamment, qui finance une grosse partie de nos actions. On travaille également avec les MSA qui nous apportent un soutien financier, et en dehors du soutien financier, beaucoup aussi de collaboration dans le suivi des accompagnements pour plein de démarches. On est en relation étroite avec les travailleurs sociaux des MSA, mais aussi des conseils départementaux. On peut être aussi en relation avec les DDT, avec la SAFER, encore avec certains mandataires ou des experts. Selon les situations, ça peut être vraiment très large. On peut aussi prendre contact évidemment avec les créanciers, les banques, etc.
Eh bien, je vous remercie pour votre participation. C'était La main à la pâte, l'émission mensuelle du réseau Impact Centre.